Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Nous poursuivons aujourd'hui notre émission sur les fins dernières. Nous allons parler du purgatoire et du paradis. Qu'est-ce que le purgatoire ? Saint Jean-Paul II nous enseigne.
Au cours de notre existence terrestre, nous sommes appelés à croître dans l'amour pour nous trouver à la fin de notre vie, fermes et irréprochables devant Dieu le Père. Nous sommes également invités à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, car la rencontre avec Dieu exige une pureté absolue.
Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, nous dit
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
Ou dans Matthieu, chapitre 5, verset 8
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »
Comment parvenir à cette exigence de sainteté ? Saint Jean-Paul II nous répond
« En aimant Dieu de tout son être, avec un cœur pur et à travers le témoignage d'œuvres de piété, de pénitence, de charité et de miséricorde. »
Saint Jean-Paul II nous dit encore
« Après la mort, ceux qui ne sont pas coupés de la grâce de Dieu, mais qui ne possèdent pas pleinement cette intégrité, doivent passer par une purification pour entrer dans la communion parfaite et définitive avec Dieu. »
C'est le purgatoire. Il s'agit d'un dogme de la foi catholique. Alors, le compendium du catéchisme de l'Église catholique explique que le purgatoire est l'état de ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont encore besoin de purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la béatitude du ciel. Et grâce à la miséricorde de Dieu, nous pouvons aider les âmes du purgatoire. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit encore « En vertu de la communion des saints, les fidèles qui sont encore sur la terre peuvent aider les âmes du purgatoire en offrant pour elles des prières de suffrage, en particulier le sacrifice eucharistique, donc des messes, mais aussi des aumônes, des indulgences et des œuvres de pénitence. » Et en agissant ainsi, il les recommande à la miséricorde de Dieu. L'offrande du sacrifice de la messe tient la première place parmi ses secours, car il répand sur l'humanité la grâce de la rédemption opérée sur la croix. Et voilà pourquoi il est si important que l'Eucharistie accompagne notamment les obsèques. Jésus lui-même demande que l'on utilise tous les moyens donnés par l'Église pour soulager les âmes du purgatoire. Nous pouvons regarder par exemple la Névène à la miséricorde divine et notamment le huitième jour. Sainte Faustine était très proche des âmes du purgatoire. Dans le petit journal, elle dit
« Ô Jésus, mon amour s'étend au-delà des âmes qui vivent sur le globe terrestre. Il va jusqu'aux âmes qui souffrent dans le purgatoire, et envers elles, je veux pratiquer la miséricorde à l'aide de prières indulgenciées. »
Dès le début de sa vie religieuse, il lui a été donné de visiter le purgatoire, écoutant ce qu'elle dit dans le petit journal.
J'ai demandé au Seigneur pour qui je devais encore prier. Je compris qu'il me le ferait connaître la nuit suivante. Je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvai dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes, qui prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes du purgatoire. Elle l'appelle « étoile de la mer ». Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'avait déjà donné le signal du départ. Nous sortions de cette prison de douleur quand Dieu a dit
« Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. »
Depuis ce moment, je suis en relation plus étroite avec les âmes souffrantes.
Vous vous rappelez sûrement que lorsque le Seigneur inspire à Sainte Faustine la Neuvaine, à la miséricorde divine que vous connaissez, il lui demande le huitième jour de plonger dans sa miséricorde les âmes du purgatoire. Écoutons-le.
Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les flots de mon sang apaisent leurs brûlures. Toutes ces âmes me sont très chères, car elles s'acquittent envers ma justice. Il est en ton pouvoir de les soulager. Puise dans le trésor de mon Église toutes les indulgences et offre-les pour elles. Oh, si tu connaissais leurs tourments, tu leur ferais sans cesse l'aumône de tes prières et tu paierais leurs dettes à ma justice.
Très miséricordieux Jésus, tu as dit toi-même que tu veux la miséricorde. Voici que j'amène dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes du purgatoire, âmes qui te sont très chères, mais qui doivent rendre des comptes à ta justice. Que les flots de sang et d'eau qui ont jailli de ton cœur éteignent les flammes du purgatoire pour que, là aussi, la puissance de ta miséricorde soit glorifiée.
Très souvent, Sainte Faustine recevait la visite d'âmes du purgatoire venues requérir son assistance. Le témoignage que l'on laisse dans le petit journal nous montre l'importance que revêt la prière. Et en voici quelques exemples. Une sœur qui souffrait au purgatoire vient trouver plusieurs fois Sainte Faustine pour lui demander des prières. Faustine en parle à la mère générale, sans doute pour demander que l'ensemble de la communauté se mette également en prière. Et n'arrivant pas à croire que la sœur soit au purgatoire, la supérieure ne donne pas suite à la requête de Sainte Faustine. Mais son refus n'empêche pas Sainte Faustine de prier pour la défunte. Et puis au fil des visites de la défunte, Sainte Faustine voit les souffrances de celle-ci diminuer. Elle raconte dans le petit journal.
À un certain moment, un soir, une des sœurs défuntes, qui était déjà venue me trouver plusieurs fois, est venue me voir. Alors que je l'avais vue pour la première fois en état de grande souffrance, puis petit à petit, dans de moindres souffrances. Ce soir-là, je la vis rayonnante de bonheur. Et elle me dit qu'elle était déjà au ciel. Et alors, je me dis que Dieu a éprouvé cette maison par la souffrance parce que la mère générale a éprouvé des doutes. Comme si elle ne croyait pas ce que j'ai dit à cette âme. Comme signe que c'est seulement maintenant qu'elle est au ciel, Dieu va bénir cette maison. Puis, elle s'est approchée de moi et me serrant cordialement, elle m'a dit « Je dois déjà partir ». J'ai compris à quel point la communication est étroite entre les trois étapes de la vie de l'âme, c'est-à-dire la terre, le purgatoire et le ciel.
Dans la nuit du 15 novembre 1937, sœur Dominique, qui s'occupait des travaux de cordonnerie, meurt. Sainte Faustine raconte dans le petit journal.
Lorsque sœur Dominique mourut, la nuit, vers 1h, elle vint à moi et me fit savoir qu'elle était morte. J'ai prié pour elle avec ferveur. Le matin, les sœurs m'ont dit qu'elle avait trépassé. Je leur ai répondu que je le savais, car j'avais eu sa visite. La sœur infirmière m'a demandé de l'aider à habiller cette sœur. Et alors que j'étais seule avec elle, le Seigneur m'a fait connaître qu'elle souffrait encore en purgatoire, et j'ai redoublé mes prières à son intention. Cependant, malgré le zèle avec lequel je prie toujours pour nos sœurs disparues, je me suis trompée de jour. Et au lieu d'offrir 3 jours de prière comme l'ordonne la règle, je n'ai, par erreur, offert que 2 jours. Le 4e jour, elle me fit connaître que les prières lui étaient encore dues et qu'elles lui sont nécessaires. J'ai immédiatement offert tout le jour à son intention. Mais non seulement ce jour, mais bien plus, comme le dictait l'amour du prochain.
Un autre jour, alors que Sainte Faustine prie à l'attention de quelqu'un devant le Saint-Sacrement, elle comprend qu'il arrive que les personnes pour lesquelles on prie ne reçoivent pas le bénéfice de cette prière, car Dieu choisit de le destiner à d'autres. Et ainsi, les prières que nous adressons pour telle ou telle âme du purgatoire ne leur procurent pas toujours des soulagements. Et cependant, elles ne sont jamais perdues, Sainte Faustine nous dit.
À un certain moment, je suis entrée à la chapelle pour 5 minutes d'adoration et je priais pour une certaine âme. J'ai compris alors que Dieu n'accepte pas toujours nos prières pour les âmes pour lesquelles nous prions, mais les destine à d'autres âmes. Et nous ne leur apportons pas toujours le soulagement quand elles souffrent dans le feu du purgatoire. Cependant, notre prière n'est pas perdue.
Même si l'on persévère à prier pour la personne qui n'a pas reçu le bienfait de nos supplications, il est quand même possible que celle-ci en recueille finalement le fruit. L'épisode suivant de la vie de Sainte Faustine nous le montre, écoutant ce qu'elle dit.
Une nuit, je reçus la visite d'une sœur morte depuis 2 mois. C'était une sœur du premier cœur. Je la vis dans une condition effrayante, tout en flammes, le visage tordu par la douleur. Cela dura quelques instants, puis elle disparut. Un frisson me saisit l'âme, car j'ignorais si elle souffrait au purgatoire ou en enfer. Malgré cela, j'intensifiais mes prières à son intention. Elle revint la nuit suivante, dans un état encore plus effrayant, assaillie de flammes plus intenses, le désespoir peint sur ses traits. Je m'étonnais, après les prières que j'avais offertes pour elle, de voir que son état avait empiré. Et je lui demandai : est-ce que mes prières ne vous ont pas aidé ? Et elle me répondit que ma prière n'avait été et ne lui serait d'aucun secours. Je lui demandai : et les prières que toute la communauté a offertes pour vous ne vous ont-elles apporté aucune aide ? Elle me répondit de même : ces prières avaient profité à d'autres âmes. Je lui répliquai : si mes prières ne vous sont d'aucun secours, veuillez cesser de venir me voir. Elle disparut aussitôt. Malgré cela, je ne cessais de prier pour elle. Au bout d'un certain temps, elle m'apparut à nouveau, de nuit, mais déjà dans un autre état. Elle n'était plus environnée de flammes comme auparavant, le visage rayonnant et les yeux brillants de joie. Elle me dit que j'avais un véritable amour du prochain, que beaucoup d'autres âmes avaient profité de mes prières. Elle m'encouragea à persévérer dans mes prières pour les âmes du purgatoire et me dit qu'elle n'y resterait plus longtemps. Les jugements de Dieu sont surprenants.
Prions donc pour les âmes du purgatoire, surtout pour les plus délaissées. Le Seigneur le désire et l'amour du prochain nous y incite. Et n'hésitons pas à leur demander également de nous assister par leurs prières. Elles peuvent le faire. Le pape François nous encourage à prier pour les âmes du purgatoire durant l'audience générale du 30 octobre 2013. Il a dit:
confiez toujours vos défunts à la miséricorde de Dieu.
Et surtout, offrons des messes pour les âmes du purgatoire. Nous allons passer maintenant au paradis. Oui, notre cité se trouve dans le ciel, nous dit saint Paul aux Philippiens chapitre 3, verset 20. Écoutons ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique.
Par sa mort, sa résurrection et son ascension auprès du Père, le Christ nous a ouvert l'accès au ciel. Depuis, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu sont admis dans la patrie céleste, passant au préalable par l'état du purgatoire s'ils ne sont pas parfaitement purifiés. Avant même la résurrection de leur corps et le jugement général qui aura lieu lors du retour du Christ en gloire.
Et voilà ce que nous explique saint Jean-Paul II.
Le ciel n'est pas une abstraction ni un lieu physique parmi les nuages, mais une relation vivante et personnelle avec la Sainte Trinité. C'est la rencontre avec le Père qui se réalise dans le Christ ressuscité grâce à la communion de l'Esprit-Saint.
Au ciel, nous verrons Dieu tel qu'il est, face à face. Nous jouirons d'une parfaite communion de vie et d'amour avec lui, en compagnie de la Vierge Marie, des bienheureux et des anges. C'est la fin ultime et la réalisation de toutes les aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitive, nous dit encore le catéchisme de l'Église catholique. Et puis nous pouvons encore peut-être écouter ce que nous communique l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
Et écoutons encore ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique.
La vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la rédemption opérée par le Christ, qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. Le ciel est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui.
Il a été donné à sainte Faustine ce privilège de visiter le paradis. Dans le petit journal, elle dit:
27 novembre 1936. Aujourd'hui, j'étais en esprit au ciel. J'ai vu des beautés inimaginables et le bonheur qui nous attend après la mort. J'ai vu comme toutes les créatures rendent perpétuellement honneur et gloire à Dieu. J'ai contemplé l'immensité du bonheur en Dieu qui s'écoule sur toutes les créatures, les rend heureuses et revient à sa source. Et toute gloire et honneur provenant du bonheur reçu sont rendus à Dieu et entrent dans les profondeurs divines. J'ai vu toutes les créatures contempler la vie intérieure de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que jamais elles ne comprendront ni n'approfondiront. Cette source de bonheur est invariable dans son essence, et cependant toujours nouvelle, jaillissante pour le bonheur de toute créature. Je comprends maintenant saint Paul qui a dit: ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et Dieu m'a laissé comprendre l'unique chose qui est à ses yeux une valeur infinie, c'est l'amour. l'amour de Dieu. L'amour. L'amour est encore une fois l'amour. Et rien ne peut être comparé à l'acte de pur amour de Dieu. Oh, quel inconcevable égard Dieu a envers l'âme qu'il aime sincèrement. Oh, que l'âme qui déjà sur terre jouit de ses égards particuliers est heureuse. Et c'est l'âme petite et humble. J'ai compris plus profondément cette grande majesté divine qu'adorent les esprits célestes selon leur degré de grâce et leur hiérarchie. Mon âme n'a éprouvé ni frayeur, ni terreur, non, absolument aucune, à la vue de cette puissance et de cette grandeur de Dieu. Mon âme a été remplie de paix et d'amour. Et plus je connais la grandeur de Dieu, plus je me réjouis qu'il soit tel. Et sa grandeur me comble de bonheur. Et je me réjouis de ce que je sois si petite, car, puisque je suis si petite, il me tient dans sa main et près de son cœur.
En février 1938, elle a été enlevée en esprit devant la Majesté divine. Dans son petit journal, elle décrit ainsi cette expérience.
Pendant l'adoration, alors que je récitais plusieurs fois « Dieu Saint », une vive présence de Dieu m'enveloppa et je fus enlevée en esprit devant la Majesté divine. Et je vis comment les anges et les saints du Seigneur rendent gloire à Dieu. Cette gloire de Dieu est si grande que je ne veux même pas tenter de la décrire, car je n'y arriverai pas, et pour qu'à cause de cela, les âmes ne croient pas que tout se borne à ce que j'ai écrit. Ce n'est qu'une goutte en comparaison de la perfection de la gloire céleste. Oh, que tu es bon, mon Dieu, d'accepter mon adoration, de tourner avec bienveillance ta face vers moi, et de me faire connaître que notre prière t'est agréable. Ô mon Dieu, comme j'ai pitié des gens qui ne croient pas à la vie éternelle. Comme je prie pour eux, pour qu'un rayon de miséricorde les saisisse et que Dieu les presse sur son cœur paternel.
Le paradis, c'est la plénitude de l'intimité avec Dieu, et ce doit être notre but et notre espérance ici-bas. Pour terminer, je vous propose d'écouter ce que dit Saint José Maria Escrivá.
Qui comprend ce qu'est ce royaume que le Christ propose, se rend compte qu'il vaut la peine de mettre tout en œuvre pour le conquérir. Il est cette perle que le marchand acquiert en vendant tout ce qu'il possède. Il est le trésor trouvé dans un champ.
La semaine prochaine, nous allons parler de Saint Jean-Paul II qui est déjà au paradis et qui intercède pour nous. Il est en effet impossible de parler du message de la miséricorde divine sans parler de Saint Jean-Paul II à qui nous devons tant. Ce sera avec le Père Henri-Marie Motin. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse dans sa grande miséricorde.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.